Mobilisation, un week-end exceptionnel durant lequel les plus grands noms de la radio se réunissent pour les Restos du Cœur. L'objectif est de collecter des fonds pour l'achat de nouveaux camions frigorifiques qui coûtent environ 40 000 euros l'unité. Ils servent à transporter et desservir les denrées dans tous les centres des Restos du Cœur. Mais sans les bénévoles, les camions ne peuvent pas accomplir leur mission. Ainsi, la transmission des compétences entre les bénévoles garantit un service optimal pour les personnes accueillies. Et ce, année après année, revue des moyens utilisés par les équipes sur le terrain pour conserver le même esprit d'équipe au sein des bénévoles depuis 40 ans, avec Olivier Devancet.
Les Restos du Cœur sont une association ayant pour principal objectif de venir en aide aux autres. Les bénévoles qui donnent leur temps et de leur énergie ont mon âge, votre âge ou encore ceux de vos parents ou grands-parents. Ce melting pot générationnel mérite une rencontre. Les règles, les idées et les astuces des restos sont transmises par les bénévoles pour les bénévoles. Je me suis rendu dans le 9e arrondissement parisien sur le site de distribution de Saint-Lazare pour en savoir plus sur cette transmission.
Je m'appelle Philippine, j'ai 28 ans et je suis élève avocate au barreau de Versailles. Nouvelle recrue au Restos du Cœur depuis le mois de février.
Moi je suis Monique, responsable au Restos du Cœur, responsable sur le site de Saint-Lazare. J'ai 68 ans.
Voilà pour la présentation de Philippine et Monique, toutes deux bénévoles au resto. D'ailleurs, se souviennent-elles de leurs premiers pas et de leur intégration au sein de l'association ?
Au début, on a un tuteur. Mon tuteur, il s'appelle Alex. Au début, surtout le premier jour, il nous suit. Il nous explique le fonctionnement des Restos du Cœur, les différents... Enfin, il y a des tips, à savoir, il y a des... Pour ouvrir une brique de lait, par exemple, pour que ça aille plus vite, pour pas en mettre partout. Et après, on est un peu lâché. Et juste, notre parrain nous surveille du coin de l'œil, mais après, on fait notre vie, quoi.
Alors, moi, ça fait 26 ans. Ma marraine s'appelait Isabelle. Sa transmission, elle m'a expliqué comment on servait, comment on recevait les gens. Mais pour moi, c'était important aussi parce que j'avais cette envie d'aider les autres.
Voyons à présent comment font les restos pour mettre en avant les qualités de transmission entre les bénévoles. Monique nous en parle.
Pour moi, un bénévole de longue date peut transmettre des informations, du savoir aux nouveaux bénévoles, mais pas que. Pour la simple et bonne raison que chaque bénévole doit savoir prendre du recul, y compris les responsables. Et c'est pour cette raison que l'objectif des restos, c'est aussi de changer de responsable régulièrement.
Un esprit d'équipe et de transmission, cela se construit aussi par l'expérience et la maturité. Pour cela, Philippine nous explique à quel point Monique représente un pilier pour elle et pour les autres bénévoles.
Il y a une personne ici sur le site de Saint-Lazare qui nous réunit tous, c'est Monique. Et sans Monique, je pense que oui, il y a forcément un esprit d'équipe, mais Monique, c'est vraiment le pilier du mercredi soir à Saint-Lazare. Et c'est Monique qui nous réunit tous, qui nous rappelle tout ce qu'il faut venir, pourquoi on est là, qui donne l'organisation, qui nous donne une tâche à chacun. Et c'est la joie de vivre de Monique.
Monique, pilier central pour les bénévoles de Saint-Lazare, à l'inverse, ces jeunes lui apportent aussi beaucoup.
Les jeunes recrues qui viennent, qui sont jeunes en âge et en esprit, apportent un air de fraîcheur sur le site. Et c'est toujours très agréable d'avoir du sang nouveau pour voir les choses un peu différemment. Parce qu'on finit vite par se scléroser si on reste toujours dans le même moule. Il faut aussi élargir ses connaissances de la société, de la précarité qu'il y a et de tous les problèmes de notre société.
Et pour conclure cet échange, quels sont les maîtres mots lorsque l'on parle d'engagement et de transmission entre anciens et jeunes bénévoles ? Monique et Philippine.
Avoir du cœur, le partage et la communication.
La bienveillance, donner aux autres, l'altruisme et l'ouverture d'esprit.
20 880 euros ont déjà été récoltés. Vous aussi, vous pouvez soutenir les Restos du Cœur et contribuer à l'achat de camions frigorifiques. Rendez-vous sur radio.restoducœur.org ou sur l'appli Radio Resto. On compte sur vous.
Merci Louis. Allez, on faut qu'on dépasse ces 21 000 euros. Voilà, je vais rendre la parole à Eric, mais il faut qu'on les dépasse.
Oui, on va tout faire pour.
Sinon, Eric va les mettre de toute façon.
Évidemment, c'est comme Arthur. Moi, tu sais, je vais acheter
RTL, le camion. RTL, on gagne. Tout se passe bien.
Alors, autour de cette table, si vous nous retrouvez maintenant à 13h.
Radio France, c'est plus compliqué.
On a faim.
On sait.
Ne t'inquiète pas, Didier.
On a plus d'argent.
Il y a Didier Varro, vous l'entendez. Il y a Fred Musa. Voilà.
Et il y a Eric Jean-Jean.
On est avec Kenner qui nous a fait un texte tout à l'heure absolument incroyable. On est avec Pierre Guénard. On t'écoutera chanter aussi parce que tu n'es pas que écrivain. Nous, on t'a découvert comme chanteur. Et puis, il y a Jérôme Soligny. Et alors, je profite de ta présence, cher Jérôme, pour diffuser sur cette radio des restos une chanson que tu as composée pour un ami à toi qui s'appelle Étienne Dao. Et je voudrais juste avant qu'on écoute la chanson que tu nous racontes d'où elle vient cette chanson qui s'appelait pas du tout comme ça et qui parlait de filles nues au centre des magazines pour adultes.
Absolument. La La chanson originale, oui,
c'est bon.
La chanson bon, parlait de filles nues, c'est vrai ou pas?
Absolument, c'est une chanson qui existait avant d'ailleurs, parce que en fait, je crois que La Beige est vraiment écrite pour Étienne, les autres chansons qu'il a chantées, que j'ai composées, en fait, elles existaient déjà. Et j'avais donc inventé l'histoire d'un mec qui était amoureux de la page centrale de Playboy, le truc ce qu'on déplie, hein, d'accord.
Comment ça s'appelait, Centerfold?
Ouais, ça s'appelle Centerfold dans l'occurrence, et ça s'appelait Centerfold Romance tout simplement, le type. Voilà. Et Étienne, qui est un mec de parole, avait entendu cette maquette et il m'avait dit un jour je la chanterai. Et je sais pas, un an et demi après avoir dit ça, il l'a enregistré pour l'album Pop Satori. Un disque dont je suis perso très fier, et on est toujours très fier. J'étais avec Arnold Turbousse il n'y a pas longtemps et Arnold me dit c'est quand même un beau disque qu'on avait fait à cette époque-là.
On l'écoute?
Ouais, bien sûr.
Musique de Jérôme Soligny, vous l'avez compris. Paroles d'Étienne. Tu nous raconteras comment il écrit les paroles, Étienne, d'ailleurs. Duel au soleil. Alors Étienne Dao qui a publié sur Instagram une photo. Tu disais, Pierre, il est à quel studio?
Je crois que c'est moteur basse.
Moteur basse. Ouais. Il disait, ça avance, c'est intense. Nous avons enregistré les batteries, basse, guitare, clavier et cuivre. Heureux, heureux. Ça veut dire qu'il y aura un nouvel album bientôt. Et puis, prestation remarquée de Didier Varro dans,
ah, sur le morceau
dans le studio. Sur le morceau, oui. Didier qui s'est collé l'autocollant.
Quand j'étais jeune, moi, j'étais fan d'Étienne Daho. Je suis toujours fan, hein, mais je me prenais un peu pour lui. J'aurais aimé être Étienne Daho.
J'ai vécu en Étienne Daho. Attends, franchement, j'avais l'impression de voir Étienne Daho.
Mais Didier, t'as vu comment je parle à la radio? J'imite Étienne Daho, en fait, bah, en parlant à la radio.
C'est vrai. Et je me souviens, à l'époque de la notée, il y avait un Virgin, qui était sa maison de disques à l'époque, avait fait des débardeurs, des marinières, comme sur la pochette. Et j'ai gardé cette marinière, mais pendant 10 ans, 15 ans. Horrible.
Mais tu n'as jamais chanté, par contre, Didier? T'as jamais essayé de...
Ni chanter, non. Dieu vous en préserve. Ou Allah,
c'était très beau, il y avait un moment. Il y avait de la poésie, en tout cas, avec toi. Là.
Ah, par contre, tu fais énormément pour les chanteurs, pour les groupes, donc c'est...
Jérôme, quand même, cette chanson, elle est un peu bizarre, mélodiquement parlant. Elle va chercher un peu du côté de l'Orient ou de la Méditerranée.
C'est très curieux.
Est-ce que tu avais pensé aux origines d'Étienne, qui est oranais?
Mais non, pas du tout, puisque comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, la chanson existait, ça a été composé avant, mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une espèce de touche hispanique dans cette chanson, voilà, indiscutable.
Plutôt hispanique, mais...
Mais alors que je n'ai pas une culture qui me fascine pour autant, mais c'est parce que c'est sur un renversement d'accords qui fait un peu hispanique, quoi. C'est une chanson, il faut savoir, c'est une chanson que j'ai composée en je sais pas, 3 minutes, montre en main, franchement.
C'est
parce que j'attendais ma petite amie de l'époque, on était à la bourre pour aller à une soirée, et ça m'agaçait, donc j'ai pris la guitare, alors qu'elle était en train de se maquiller pour la 11e fois, enfin, un truc normal, un truc de fille, quoi. Et j'ai pris... C'est pas méchant, c'est parce qu'elles veulent toujours être belles. Quoi que je dise, je m'enfonce. Bon, bref. Et donc, d'impatience, et on dit, putain, mais tu... Voilà, et j'ai composé ça comme ça, très très vite, et puis pareil, comme ça me paraissait un peu tristos, je suis passé, j'étais en lag, etc. Dit, allez, on va en ré, et puis après on monte en sol. Enfin, c'est voilà, il y a pas de, c'est pas, c'est tout, ça me touche énormément quand on parle de cette chanson-là, mais c'est pas facile de dire, vous avez vu un peu la chanson, dire quand, toi, tu dois énormément bosser les textes quand même s'il y a un côté naturel et pareil quand on écrit, mais la musique, si ça vient tout seul, c'est pas facile de s'entendre dire à quel point c'est merveilleux, et puis voilà.
Mais écrire pour d'autres, est-ce que c'est vraiment compliqué, ça aussi? Je sais pas si vous le faites, Pierre.
Moi, je le fais, ouais.
Kemmler, vous écrivez aussi pour d'autres?
Moi, j'essaye un peu, mais ce n'est pas un exercice très facile.
Attends, Kemmler, c'est possible d'écrire du rap pour d'autres?
En général, j'écris plus pour la pop. J'avais écrit pour... récemment, j'ai écrit pour Chaim. Et en vrai, ça dépend, en fait. Quand la personne déjà est présente, moi, en général, on m'appelle pas mal pour les trucs un petit peu introspectifs, etc. Donc en vrai, en parlant avec la personne, t'essayes de t'imprégner et t'essayes d'écouter un petit peu ce qu'elle te dit, ce qu'elle te raconte et ce qu'elle a envie de raconter. Et puis la difficulté du truc, c'est que quand tu chantes pour toi, tu sais ce que tu veux dire, tu sais ce que tu veux pas dire. Mais des fois, t'as l'impression d'avoir fait un couplet incroyable, mais si la personne qui le chante veut modifier des trucs, t'es obligé de le faire, c'est elle qui va porter la chanson, ouais. Donc tu le fais. C'est là où c'est un petit peu difficile. Donc il y a beaucoup plus de modifs que quand c'est pour toi, mais c'est un exercice qui me plaît aussi parce que tu te mets dans la peau de, c'est un peu être acteur, quoi.
Il y a cette histoire légendaire de Françoise Hardy qui écrit pour Julien Clerc, fais-moi une place. Il lui fait écouter tout un tas de mélodies comme ça. Puis à un moment, elle aime rien. Puis tu connais bien Françoise Hardy, Didier, quand elle aime pas, quoi. Puis à un moment, en désespoir de cause, il lui fait le petit truc de piano de fais-moi une place. Et elle lui a donné un texte et elle lui a dit, tu changes pas une ligne et tu le changes exactement comme j'ai chanté sur la maquette. Et Julien Clerc l'a fait, c'est devenu un succès. Comme quoi, de temps en temps, tu peux l'imposer.
Je voulais juste, parce qu'on a coupé un petit peu, Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus aussi sur, moi, sur l'écriture.
Oui, alors, parmi les chansons que Étienne m'a fait le bonheur de chanter, il y en a une que j'ai vraiment écrite pour lui, mais c'est Rock'n'Roll Suicide, en fait, c'était vraiment une folie d'avoir fait ça dans ma tête.
Mais c'est Bowie, ça.
C'est-à-dire que, oui, mais voilà, j'explique. C'est-à-dire que, en fait, moi je suis très ami et j'adore la musique des Pet Shop Boys. Je crois que sûrement Didier doit connaître l'anecdote. Et Étienne n'aimait pas les Pet Shop Boys. Et ça me faisait chier parce que c'est mes copains, tous, et voilà. Et un jour, Étienne me demande vraiment une chanson, donc qui va devenir celle qui s'appelle La Baie sur Corps et Armes. Et je me dis, je vais faire un truc à la Pet Shop Boys, on verra, ça va peut-être un peu lui plaire. Et donc j'ai fait quelque chose qui, sur l'album d'Étienne, ça ressemble pas du tout à Pet Shop Boys, c'est plus Burt Bacharach, etc. Mais en tous les cas, c'est quand même très Pet Shop. Et le plus fou, c'est qu'il a adoré la chanson. Je crois même qu'elle a un peu démarré Corps et Armes au moment où il a fait l'album. Et Le plus dingue, c'est que les Pet Shop adorent cette chanson-là. Et il y a un album des Pet Shop Boys sur lequel ils mettent... Il y avait deux CD, un double CD, le CD de Chris Lowe et le CD de Neil Tennant. Et chacun mettait ses chansons préférées. Il n'y a que des chansons anglo-saxonnes. Sauf sur le seul l'album de Neil, il y a la baie. Et donc, c'est moi en train d'essayer de faire que mon pote aime bien un groupe que j'aime bien. Et c'est devenu ça. Etienne a repris sur son album de reprise un morceau des Pet Shop Boys.
Ça y est,
Choose.
C'est réglé.
Ouais,
voilà. Cette histoire est réglée.
Voilà, cette histoire est réglée. Il s'aime bien.
Pierre, tu as déjà écrit pour d'autres?
J'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a pas toujours été concluant. J'adore cet exercice parce que justement, il faut se mettre à la place de la personne. J'aime bien le faire en présence, en fait, de la personne, parce qu'on m'a proposé plein de fois, mais à distance, comme ça, et je déteste ça. En revanche, en présence de la personne, écrire vraiment à deux, de parler, tout ça, j'adore ça. Je l'ai fait pour Julien Granel, notamment, et j'avais adoré cet exercice. Je trouvais ça super.
Qu'est-ce qu'on fait? On écoute un peu de musique.
Je sais pas, j'étais en train de parler avec Mathias qui est en régie, qui me dit j'ai les Pet Shop Boys, ça vous ferait plaisir? Un petit Pet Shop Boys.
Ça. Alors moi oui.
Alors un petit Fred.
Ouais, pourquoi pas?
Non, franchement,
mais c'est vrai que c'est un groupe qui m'a. Je vois très bien, mais c'est pas un groupe qui m'a énormément marqué. Je suis un peu comme Étienne Daho là-dessus.
Tu lui as fait du mal.
Je suis désolé.
Juge de paix.
Cette émission est une démocratie. On a le droit de dire non et de passer à autre chose.
Hein. Si on passe à ces garçons-là.
Ah oui, on est d'accord. On va mettre, tu sais quoi, Mathias, je m'adresse à notre réalisateur. On va passer à du Elvis.
On n'a plus.
Boys.
C'est fini.
C'est ta faute.
C'est une affaire qui a été rapidement réglée.
Fred Musa veut pas, on fait pas.
Mais non, attends. J'ai mis un point autour de la table.
L'empereur.
Moi, je m'en fous, j'ai tous les disques.
Voilà, limite cet après-midi à la maison, quoi. On repart sur quoi alors?
On part sur Radio Elvis. Vas-y Mathias.
C'était un été ordinaire. Ces garçons-là étaient gentils. Trouvaient toujours les mots pour plaire. Moi je me cachais pour écrire. Ces garçons-là, ces garçons-là, ces garçons-là. Les filles avaient ce goût amer, j'en avais peur jusqu'à vomir. Ces garçons-là savaient y faire, moi je n'avais pas mon mot à dire. Ces garçons-là, ces garçons-là. Ces garçons-là. Les couples levaient sans prévenir. Ces garçons-là étaient virils. Et la violence à divertir avait ce garçon si facile. Tiens-le, tiens-le. Tiens-le, tiens-le. Tiens-le, tiens-le. La terreur à mes yeux rougit. Ces garçons-là m'ont fait courir. Je n'avais qu'une idée en tête. Toucher la fille et puis partir. Montrer quel garçon j'allais être. Je voulais juste m'en sortir. Ces garçons-là. Ces garçons-là. Ces garçons-là. Jamais eu d'oreille. Et mes parents n'ont jamais su que l'enfant y était perdu. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Là-bas, jamais pu oublier J'étais ce garçon ordinaire. J'étais ce garçon ordinaire. Avec son histoire à écrire. Promis, je ne vous oublierai pas. Je suis ce garçon ordinaire. Promis, je ne vous oublierai pas. Promis, je ne vous oublierai pas. Ce garçon-là, ce garçon-là, ce garçon-là.
Ces garçons-là, Radio Elvis, c'est un peu la fondation de ce livre, finalement, Zéro Gloire, Pierre Guénard.
Exactement.
Ouais. C'est quand même cette chanson du groupe qui fait que le groupe, c'est...
Bah, qui fait que j'ai voulu écrire tout seul. Ouais. Exactement.
Il y a un nouvel album en prévision, quelques chansons que tu tournes en solo, en piano-voix.
Oui, exactement.
Quelques moments de guitare.
Ouais. Bah, je serai ce soir à HR, à l'Estival, avec Trust. C'est vraiment
grand écart.
Deux continents.
Deux salles, deux ambiances.
Et je peux raconter juste une anecdote où je parle de moi. En fait, je suis allé le voir en concert piano-voix
en juillet. Oui.
Et donc j'arrive, c'était au We Are, bon voilà, il fait son... Je le connais bien, hein, garçon. Et le concert se termine, ça durait à peu près une demi-heure.
Ouais.
Impossible de parler, je me suis mis à chialer, mais... Et ils étaient tous un peu inquiets. En
fait. Mais promis, tu t'as pleuré parce que c'était bien
ou parce que
pourquoi d'un seul coup
Bon, ce mec me plaît beaucoup, mais en même temps, j'étais dévasté par l'émotion, par ce que ça raconte, par plein de choses qui tout d'un coup remontent. Et...
Mais d'ailleurs, les thèmes que tu abordes là, si je peux me permettre, c'est exactement ce que Bowie abordait au début de sa carrière. Un morceau qui s'appelle London Boys, où il est lui dans sa banlieue et il fantasme sur la vie londonienne, mais il s'en méfie aussi parce qu'il trouve qu'ils se ressemblent tous, donc il veut quand même... c'est super intéressant, quoi, tu vois, c'est à la fois vouloir faire partie des garçons-là, et puis se positionner, enfin, c'est... De toute façon, c'est le grand questionnement du passage de l'adolescence à
c'est savoir qui on est,
Et voilà, quoi.
Didier, tu as déjà pleuré, par contre, rassure-nous quand même, tu t'es déjà effondré comme ça dans d'autres concerts
Mais rarement, il va être super content pour le concert de Barbara. Donc,
je suis content.
C'est un peu ma Barbara 2.0.
Et toi, Fred? Moi, il y a des morceaux qui peuvent me faire chialer, bien sûr. Des morceaux qui me touchent, on est tous réceptifs, plus ou moins. Il y a des morceaux, tu as des morceaux, on parlait de Diams tout à l'heure, il y a des morceaux qui est Petite Banlieusarde, qui est pareil, un morceau fleuve, je te jure que c'est un morceau qui peut me faire chialer, dont certains, pas tout le temps, mais certains moments, c'est un morceau tellement touchant ce qu'il raconte sur ce texte, sur des longs textes. Tu parlais tout à l'heure de Kerry James, 28 décembre 77, mais, pareil, c'est des
mais
morceaux.
Mais toi, t'assistes en plus à des lives des fois où pendant les Planet Rap, etc., t'as des artistes qui viennent.
Bien sûr.
Qui viennent en fait un peu livrer leur histoire et tu les as en face de toi en fait.
Ouais.
Donc tu ressens l'émotion, je pense que c'est vraiment.
Ça m'est arrivé, même pendant les émissions, parfois, d'avoir la larmichette à l'œil, sur certains titres, sur certains morceaux. Il y a des moments qui. Et puis dans ta vie, tu traverses aussi des moments dans ta vie privée qui te ramènent. Quand la musique arrive, ça te ramène aussi à ça.
Et toi, Eric?
Renaud. Ah ouais, Renaud. Ouais. J'ai un souvenir très précis d'un jour où j'étais. Mon père venait de mourir et j'étais sur l'autoroute, j'allais à Bordeaux. Et j'étais tout seul dans ma voiture et je roulais assez vite. Et j'ai mis une playlist de Renaud et j'ai arrêté, je pleurais. J'étais tout seul dans ma bagnole et j'écoutais, je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je vis chez mes vieux à la Courneuve, j'ai mon CAP de délinquant, je suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras j'ai tatoué une couleur et je chiale comme un gosse. Et Renaud, il y a des moments où il est capable de...
Mais c'est marrant parce que tu m'aurais dit Mistral gagnant à la limite, tu vois, des morceaux comme ça, mais non, c'est vrai que ce titre-là...
Non, il y a des... Moi, il y a des chansons, le sirop de la rue, il y a La pêche à la ligne.
Fond bleu.
Fond
bleu, c'est une chanson incroyable.
Renaud...
La mère à Titi, moi j'adore, ça me rappelle aussi un peu chez moi la Ah
mais
oui,
mais ouais. Mais c'est très étrange parce que j'ai grandi dans un village de 1200 habitants où je n'avais jamais vu la banlieue. J'avais même le métissage, ça n'existait pas. Mmh. Et en fait, Renaud, depuis que j'ai 12 ans, me parle. Alors que Renaud, il a quand même chanté. Enfin, je sais pas, ça te parle, toi, Pierre?
Moi, j'adore Renaud, mais parce que en fait, c'est, peu importe le cadre, c'est toujours la même histoire finalement. Et je trouve que même si on vient pas de la banlieue, moi, je venais de la campagne aussi, et ça me parlait à fond, comme téléphone aussi à ce moment-là. Enfin. En fait, on s'en fout du cadre, c'est l'histoire qu'il raconte dedans. Je trouve qu'on peut tous s'identifier, c'est pour ça que c'est très populaire.
Jérôme ?
Moi, je pense que In My Life de John Lennon, enfin des Beatles, mais les chansons de John Lennon, c'est quelque chose que je, enfin, c'est très très bouleversant. C'est comment réussir à synthétiser des émotions en très très peu de mots, quoi. Je suis dès que je l'entends dire There are places I remember all my life. Moi, je suis resté dans ma ville. J'ai jamais fait le grand saut. J'ai jamais eu les tripes de d'aller à Paris. Je suis resté dans. J'habite au Havre, qui est une ville pas forcément très sexy. Elle est un peu plus maintenant, mais je sais ce que c'est que d'être attaché à son coin. Et d'ailleurs les nonnes aussi, puisque on peut penser que les nonnes il voulait revenir finir sa vie en Angleterre, comme Bowie d'ailleurs. C'est un peu tout ça est très triste.
Kemmler, toi,
Marseille, après c'est aussi autre chose.
Non, mais t'habites toujours à Marseille, ouais.
Ouais, je suis entre Paris et Marseille en vérité, mais en vrai chez moi c'est Marseille, quoi. Ouais.
Et les Marseillais, c'est ça qui est. Alors, par contre, c'est vrai que cette ville, c'est quand même assez incroyable, parce que je crois qu'il y a pas d'autres exemples, même si tu peux être attaché à certaines villes, mais t'es avant tout Marseillais, t'es pas Français, t'es pas Algérien quand tu vis là-bas, t'es pas Comorien, tu es Marseillais, quoi.
C'est Marseille, ouais. On est une ville ultra cosmopolite en plus, et je me sens chez moi nulle part ailleurs qu'à Marseille, c'est comme ça. Et pour revenir sur des morceaux qui peuvent te faire pleurer, etc., moi, avant tout, et je pense que c'est ce dont tu parlais pour Renaud, tu me dis, ouais, j'ai pleuré parce que ce morceau-là et tout. Mais en fait, je pense aussi que c'est une nostalgie, ça te rappelle la nostalgie d'un instant, de quand tu l'écoutais.
T'as complètement raison.
À 15 balais, tu vois, et tu te dis, en fait, la nostalgie de ce moment-là, tu te dis, putain, j'ai envie de revenir à ce moment-là, et c'est ça aussi qui te provoque une émotion. Et moi, bizarrement, autant je suis un amoureux des textes, et ça veut dire que je vais vraiment plus écouter les textes, autant je peux avoir vraiment la larme à l'œil, sur un solo de piano où en fait ça me touche, quoi.
Aznavour, qui est un artiste pour toi qui est important. Ouais. Aznavour, il y a des textes
incroyables.
Avec une émotion.
Encore, moi, c'est hier encore. C'est vraiment un morceau où je pouvais l'écouter à 20 ans, alors que c'est un peu c'est complètement l'antithèse du morceau, en fait, et me dire waouh. Le temps passe vite, c'est fou, etc. Et d'avoir vraiment une sensation dure.
J'étais en train de demander à Mathias s'il avait du Aznavour. Dis-moi, alors, est-ce que t'as comme
et
Aznavour ?
Peut-être faisons un point, parce que je crois qu'on a une bonne nouvelle.
On a une bonne nouvelle, effectivement.
Max. Alors,
je ne sais pas si c'est quelqu'un autour de la table qui a mis beaucoup d'argent, mais on a passé les 21 000 euros.
Bon, et pour ceux qui viennent de nous retrouver là à 13h27 sur la radio des Restos, comment on fait si on veut donner ?
Comment on fait ? C'est très simple, soit vous allez sur radio.restoducœur.org, soit vous allez sur Radio Player, soit vous allez sur l'application Radio Resto, et on va passer ces 22 000 euros, voilà, c'est l'objectif. C'est le nouvel objectif.
Des dollars pour les camtars, des euros pour les...
Restos. Voilà,
merci de suivre.
Je regardais l'heure, on se dit que dans une demi-heure, on a passé un cap.
Ah bah ouais.
On se dit les 22 000 ?
Ouais.
Allons-y.
Allons-y. On peut le faire. Et on n'oublie pas, le Crédit Mutuel donne le là, et surtout, il double votre nom, hein, ça c'est
magnifique.
Important.
Qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, moi je veux bien vous proposer un morceau.
Eh ben d'accord.
Non, parce que hier est sorti aussi l'album de Dossé, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter.
Bien sûr.
Dossé, c'est un artiste qui est dans le rap déjà depuis un moment aussi, c'est assez incroyable, et je trouve qu'il se bonifie.
Tu connais en rap,
moi. Oui.
C'est Laurent Petit-Guillaume qui fait toutes les bios.
C'est absolument incroyable, et je crois que là il est en train de googliser.
Il faut faire partager aux auditeurs, c'est génial. Parce qu'en fait, quand Fred a donné la liste des titres qu'on avait passés, à un moment, Laurent est devenu hyper pointu sur un rappeur que Didier et moi on connaissait pas.
C'était sur Kemmler.
Ah, et je dis, mais comment il connaît tout ça? Et en fait, il t'avait googlisé.
Mais depuis, il a quand même écouté.
C'est vrai.
Il est vraiment aussi en transe sur toi. Donc très bien. Si c'est une belle découverte pour Laurent, et j'espère aussi pour d'autres personnes, et pour d'autres personnes qui nous écoutent. Non, donc Dossé qui a sorti son album, je disais, c'est quelqu'un qui est présent dans ce jeu, dans ce rap game depuis des années. Son frère, c'est Pete Bacardi, qui était là aussi à l'époque du Secteur A. Je sais pas si ça va te parler, Eric.
Oui. J'essaie de. C'est un des trucs que j'ai connu.
Voilà.
Tu veux dire, c'est même époque MC Solar.
Oui. Juste après. Merci.
Tu vois, je m'arrête.
Tu veux encore déchaîner les réseaux? Vas-y, continue comme ça. Non, il se trouve qu'il se bonifie aussi au niveau même de l'écriture. Il a écrit un morceau. Alors, je ne vais pas vous révéler, parce que si vous n'avez pas écouté l'album, t'as forcément pas écouté l'album de Dossé. Donc, je ne vais pas vous révéler totalement de quoi il parle. Vous allez le comprendre très vite.
Oui.
Et il faut laisser monter crescendo. C'est un morceau qui s'appelle Jamel. Mais je vous en parlerai après. Je pense qu'on peut l'écouter. C'est extrait de son album qui vient de sortir en même temps que toi aussi. Exactement. Écoutez vraiment le texte.
Je m'appelle Jamel, on me surnomme Poisson à cause d'un personnage du film Rai, je crois.
français d'origine des Z. Je viens de la cité des tilleuls à Blancoc, 9-3-35 balais. Je bosse dans le textile, ma petite marque, je développe doucement, tranquille. Une après-midi banale sur Paris, je suis pas loin de place de Clichy avec Laurie, une copine. Il fait vite fait frisquer, mais bon, c'est léger. Elle me parle de tout et de rien, du taf qu'elle a délégué, des impôts et du putain de climat qui fait que se dérégler. Me dit qu'elle va pas tarder, donc je dis au serveur que je vais régler. J'ai juste le temps de finir tiroter mon revêt. À peine Laurie parti, j'appelle mon prochain RDV. Jamila, ma soeur, si elle sent, voilà, crois pas que je rigole. Je lui dis de me rejoindre où je suis, pas loin de Batignolles. Elle me dit, viens, toi, s'te plaît, je peux pas me déplacer. Flemme, j'essaie de négocier vu qu'en plus je suis à pied. Bref, elle m'explique qu'elle est vers Bastille, dans un petit bar brasserie, que c'est la nif d'une amie et que je n'ai qu'à venir. Finalement, je saute dans le métro le plus près. Tu dossais dans les écouteurs pour m'occuper. Dans les transports, au milieu des gens, je slalom. Je rejoins la ligne 9 et je descends à Charonne. 100 minutes de marche à pied, je suis à l'adresse indiquée. Je connais pas le lieu, première fois que j'y mets les pieds. Jamila me fait signe de les rejoindre en terrasse. Je m'approche, je lui fais une accolade, elle me présente à ses potes. Parmi eux, le boss des lieux, qui est aussi son ex-mari. Ainsi que celle dont c'est la nif, serveuse dans la petite brasserie, donc c'est à ses familles. L'ambiance est fun, je vais y rester un petit temps. On me demande ce que je veux boire, je dis que je voudrais bien un petit plan. Je suis en totale détente, limite il manque plus que le hamac. Elle lâcherait carrément au max. J'aime bien jacter avec ma pote. Elle bosse chez Isabelle Marant. Un bon poste, alors elle me donne souvent des bêtes de tuyaux pour ma marque. Soudainement j'entends pac pac pac, le coup par coup avant qu'une rafale parte. Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient. Au premier rang y'a un peu de monde, du coup je vois pas bien. Ça court dans la hurle, ça bride sous les porches. Ça pleure et ça hurle comme des porcs qu'on égorge. À peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache, que je me retrouve au sol comme clou et truc de malade. Je sais même pas si je suis touché ou si c'est pas réflexe. Je vois ma chair, mes os apparents, j'ai le bras en pièces. Je connais les guerres de rue, mais là c'est la guerre tout court. C'est quoi cet enfer, 5 minutes plus tôt c'était tout cool. Et je sais même pas si le gars est seul ou s'ils sont venus à plein. Tout ce que je sais c'est que putain je suis atteint. Autour c'est l'hécatombe, pendant que ça continue de tirer. T'as ce fou allié qu'avance en marchant sur les corps. En cherche de gens à finir, donc je fais mine d'être mort. Je me remange quelques balles, oh merde c'est quelque chose. Je sais même plus si j'ai mal, c'est comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause. Tout va si vite, pourtant ça me semble être une éternité. Alors ça y est, on parlera de moi en disant RIP. Je revois les gens qui m'aiment, je pense à ce que j'ai laissé filer. Est-ce que c'est ça que les gens appellent voir toute sa vie défiler? Puis les coups de feu cessent, y'a comme un air de fin des temps. Les types remontent en caisse, ils se barrent en criant que Dieu est grand. Je réalise que je suis encore vivant, en train de me vider de mon sang. Je veux me réveiller de ce cauchemar et voir que rien n'est réel dans cette soirée-là. J'appelle à l'aide et je fais que demander où est Jamila. Et je la vois à quelques mètres de moi, allongée sur le dos. Je m'appuie sur un de mes bras et me hisse jusqu'à elle. Je la sens caresser le crâne du bout de ses doigts, comme pour me dire tout va bien Jamel. Je me sens partir, donc faut que je me force à vivre. Les minutes passent et les secours arrivent. Me voilà sous perf, couverture de survie, masque à oxygène. Mais où est mon ami? Je suis dans l'ambulance, direction l'hôpital. Expédié en urgence, au bloc opératoire. Réveillé le lendemain, mon pronostic vital n'est plus engagé. C'est une première victoire, me voilà alité. Le bras gauche plein de broches et immobilisé. La jambe droite toute bandée, je sais même pas ce que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que je sens plus mon pied. Avez-vous vu mon ami, s'il vous plaît? Mais Jamila nous avait déjà quittés. On est 7 piges après, j'ai pied droit amputé. 13 novembre 2015, ma vie a basculé. La vérité, c'est que je suis miraculé. Et je dois la vivre à fond, cette vie-là. Celui qui se lève le matin, pose ses deux pieds sur le sol, ne se rend même pas un peu compte de la chance qu'il a. Mais moi, si, y'a pas un jour que je pense pas à Jamila. Et aujourd'hui, j'ai une fille, je lui veux mon existence. Les vibes sont positives, j'ai appris la résilience. J'ai envie d'évasion, de voir commencer autre part. Le monde est vaste, Allah Akbar.
Voilà donc ce morceau qui est sur le...
Putain la claque.
Sublime.
Et puis c'est dur de parler plus... parce que c'est encore frais pour nous, c'est, ouais. Cette histoire ignoble de ce mois de novembre 2015 en effet.
Ouais, et puis en plus, ce qu'il raconte, le flow, mais il y a aussi l'instru qui est incroyable. Ça commence comme un morceau un peu abstract, hip-hop, et ça termine quasiment piano-voix avec une évolution dans la production aussi du morceau qui donne une matière, une texture à ce qui est raconté. C'est super beau.
C'est une histoire vraie. Hein.
En fait, il raconte Jamel, l'histoire d'un autre type.
Il raconte l'histoire de Jamel, qui est un de ses potes aussi à l'origine, et qui avait rejoint donc, sur les terrasses en novembre 2015, ses potes aussi.
Incroyable.
Non, mais c'est un morceau qui m'a touché, puis tu as une vraie progression, et je trouve qu'en plus c'est très compliqué d'écrire sur ces
Le storytelling ces événements. Est fou aussi.
Ouais, vraiment,
Et vois, la manière dont ça monte.
C'est incroyable, le storytelling est fou. Et ça me fait penser un petit peu au
aux anciens morceaux de Medine. Mmh. Il y avait beaucoup de storytelling comme ça. Et en fait, c'est hyper prenant. T'as l'impression de regarder un film, en fait. Ouais. Je trouve ça
mais
magnifique.
C'est cette capacité qu'ont les rappeurs aussi à faire défiler leur vie en 3-4 minutes, comme il le dit d'ailleurs. Ça me faisait penser à un autre morceau de Gringe qui n'a rien à voir en termes de flow, etc. Où tout d'un coup, t'es avec eux et tu défiles leur vie.
Il y a aussi ce morceau dans le dernier album d'Orelsan où il est dans la manif.
Incroyable,
un morceau insensé. Ouais. Pierre, je te regardais en écoutant la chanson, en me demandant si c'est pas plus difficile de raconter une histoire comme ça quand on fait de la chanson, j'allais dire plus classique.
Bon, en tout cas, on parlait d'émotion. Moi, j'avais envie de pleurer pendant la chanson. Elle est très forte. Enfin, ça m'a vraiment scotché. Ouais. Au début, ça paraît tout léger comme ça. C'est on sourit plein de fois, et puis tout d'un coup, on a vraiment la violence. En plus, c'est vraiment des événements qui sont très frais encore, justement. Ouais. Et puis le monde a vraiment changé. En plus, enfin, en tout cas, la France a changé depuis ce moment-là. Pardon, j'ai oublié.
Parce que les rappeurs, ils disent beaucoup plus de mots que quand on écrit des strophes pour une chanson. Donc en fait, est-ce que c'est facile d'essayer de raconter une histoire quand on a le format chanson,
Moi, le rap, ça m'inspire beaucoup pour ça, parce que j'essaie de me détacher d'une certaine. J'écrivais souvent par habitude. On a tendance à. Mais tu dois connaître ça aussi. Des fois, on écrit pour le son. Il y a le son qui vient et qui conditionne le choix des mots. Et on finit parfois à se couper du sens de ce qu'on voulait dire. Parce qu'une habitude de rythmique interne, de mélodie interne, fait qu'on choisit un mot parce que ça rime, parce que ça tombe bien et tout. Et j'essaye de me détacher de ça et d'écrire vraiment ce que je pense. Mm-hmm. Et de le chanter par la suite. Et peu importe que ça rime ou pas, j'essaye vraiment d'être au plus près de ce que je veux dire.
C'est le principe de la pop, ça, Jérôme, d'utiliser les mots plus parce qu'ils sonnent que.
Complètement, oui. Bowie, par exemple, enfin McCartney aussi, il y a vachement la musique des mots, quoi. C'est-à-dire que des fois, le sens est moins important que ce qu'on pourrait croire. C'est pour ça qu'analyser des chansons ou avoir la prétention de savoir ce que l'auteur a voulu mettre, c'est pas forcément évident. Mais maintenant, il y a des chansons à texte, vraiment. Il y a des gens qui racontent des trucs.
Non, mais c'est vrai.
Et puis en fait aussi.
Moi, c'était Goldman, ça va.
on parle du rap, de ce côté storytelling et très cinématographique, mais il y avait Brel qui faisait ça dans Orly, par exemple.
Oh là là.
C'est incroyable.
Ils ne voient que deux. Il y a une phrase dans Orly, c'est une chanson incroyable. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas.
Grignoter comme quelqu'un.
Tu l'avais choisi. Cette chanson.
Tout entouré qu'ils sont d'adipeux en sueur, qu'il est
montre du nez.
Et de bouffeurs d'espoir, qu'il est montre du nez. Cette chanson, elle est on peut l'écouter.
C'est ton choix.
Alors, Brel, Les Marquises, quand l'album est sorti.
Ah ouais, l'album.
J'étais petit, j'ai écouté ça en boucle. Et de temps en temps, par salve, j'écoute ça, mais tout le temps, puis après je m'éloigne de ça. Mais Orly, c'est une chanson incroyable.
C'est vrai que Brel, en tout cas,
incroyable.
Moi, ces gens-là.
En termes d'émotion, ces gens-là.
La façon dont il interprète ce morceau, enfin, c'est un truc.
Amsterdam.
c'est l'interprétation aussi qui est totalement incroyable.
Ça, c'est Orly. Ouais. Écoutez les paroles.
Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit lui dire je t'aime. Je crois qu'ils sont en train de ne rien se promettre. Ces deux-là sont trop maigres pour être malhonnêtes. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et brusquement ils pleurent à gros bouillons, tout entourés qu'ils sont d'adipeux en sueur et de bouffeurs d'espoir qui les montrent du nez. Mais ces deux déchirés, superbes de chagrin, abandonnent aux chiens l'exploit de les juger. La vie ne fait pas de cadeaux. Et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche. Avec ou sans Béco. Et maintenant ils pleurent, je veux dire tous les deux. Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais il. Tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sanglots de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent, et je vous jure qu'ils crient. Et puis ils se reprennent, redeviennent un seul, redeviennent le feu, et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux, et puis en reculant, comme la mer se retire, ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, et brusquement il fuit sans se retourner, et puis il disparaît, bouffé par l'escalier. La vie ne fait pas de cadeaux, et nom de Dieu, c'est triste, Orly, le dimanche, avec ou sans béco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier, et elle reste là, cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot. Elle connaît sa mort, elle vient de la croiser. Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. La porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle tourne sur elle-même, et déjà elle sait qu'elle tournera toujours. Elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. L'amour le lui a dit, revoilà l'inutile. Elle vivra de projets qui ne feront qu'attendre. La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit.
On pourrait croire qu'on fait de la radio dans cette émission, parce qu'on écoute Brel, et on a Jérôme Soligny en face de nous, qui est le spécialiste, l'encyclopédie vivante de la carrière de Bowie, et Bowie a repris Brel.
Bien sûr.
Et on m'a toujours dit, en fait, que Brel avait pas trop compris comment cet ovni un peu transgenre de la pop musique venait s'occuper d'une chanson comme celle d'Amsterdam, par exemple, et que, en fait, il y a eu une sorte de rendez-vous manqué entre ces deux.
Alors, il y a eu un rendez-vous manqué, et il faut quand même savoir, et c'est assez important, justement, c'est bien que tu me permettes de le dire, hein. Bien sûr, je l'ai écrit, mais. En fait, David a écouté Brel par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, il a vu une comédie musicale qui était jouée à Londres à la fin des années 60, qui s'appelait Jacques Brel is Alive and Well, etc. Et c'est ça, c'est de ces chansons-là, c'est de cette troupe chantant les chansons de Brel, dont il tombait amoureux, avec des adaptations anglaises, bien sûr, en l'occurrence co-signées par Mort Schumann, qui faisait les adaptations.
Ça.
Et ensuite, il y a un chanteur anglais que vous connaissez forcément au moins de nom, qui est Scott Walker. Et Scott Walker était un vrai fan de Brel. Et Scott Walker, sur ses premiers albums solo, il a fait partie d'un groupe qui s'appelait Walker Brothers, mais il a fait des albums solo sur lesquels il reprenait beaucoup Brel. Et David avait une petite amie qui écoutait en boucle Scott Walker. Et forcément, quand il allait chez elle, il entendait à nouveau des chansons de Brel, mais toujours pas chantées par Brel. Et donc, il est arrivé à Brel après ces deux étapes-là, quand même. Et donc, effectivement, il a repris Amsterdam, il a aussi repris My Death, qui est, enfin, la mort attend là, je crois que c'est ça. Enfin, peut-être ça s'appelle. C'est pas un morceau très, très connu de Brel, mais en revanche, il était dans la comédie musicale. C'est pour ça qu'il l'a chanté. Et donc, il y aurait eu un rendez-vous. Alors, il y a eu un rendez-vous manqué en 73, dont on est à peu près sûr, puisque, en fait, soi-disant, lui ne me l'a jamais confirmé, et les gens autour de lui ne me l'ont jamais non plus confirmé, mais il paraîtrait qu'il aurait bien aimé le rencontrer quand il est venu faire une conférence de presse en 73 au Georges V, et Brel était en train de tourner L'Emmerdeur, dans le sud de la France, donc physiquement, c'était pas possible. Et puis, il y a aussi une on va pas dire une rumeur, parce que c'est pas très cool, mais il y a j'avais un ami, moi, professeur de théâtre, qui m'avait fait rencontrer des gens comme, il est professeur de théâtre au Lucernaire, il m'avait fait rencontrer des gens comme Laurent Tirzieff, tout ça, justement à l'époque où j'ai connu Étienne, où on traînait pas mal dans ce quartier-là, et qui nous avait dit qu'il avait entendu une conversation dans laquelle, on va dire, pour être très poli, que Brel était très très sceptique sur le fait que des chanteurs anglo-saxons, que ce chanteur-là puisse intéresser
bah attends,
lui.
Mais Brel, enfin, c'est de notoriété publique. Il était misogyne. Ouais. Il a eu des discours incroyablement misogynes. Il était aussi d'une autre époque. C'est-à-dire que j'imagine assez mal Jacques Brel, avec toute la passion que j'ai pour lui, comprendre l'univers de David Bowie.
Oui, c'est-à-dire que peut-être que l'apparence, tout ça, le dérangeait, puis il n'avait pas fait l'effort de gratter, ce qui est compréhensible. Et puis, alors voilà, y a-t-il eu des propos homophobes de tenue? Il paraîtrait que oui,
mais
maintenant,
mais
c'est
ça,
aussi des gens qui picolaient pas mal, on peut dire, donc ça peut riper en fin de soirée, enfin voilà, de là à rentrer dans des... Voilà,
mais encore une fois, c'est une autre époque, hein.
Oui, oui, bien sûr.
C'est pas du tout, c'est deux univers complètement différents.
Ah ben complètement, mais en
oui,
même
puis il y avait Alice Cooper, il y avait tous ces gens qui étaient quand même un peu dérangeants, il y avait Laurie qui s'affichait aussi avec le visage totalement pâle, etc., la croix gammée dans les cheveux, enfin c'était pas forcément des gens qui étaient très faciles à appréhender pour les grands de la chanson française, on va dire ça comme ça.
Et puis c'est vrai qu'il y avait peu de connexion entre la pop anglo-saxonne et la chanson française.
Bien sûr, bien sûr. Oui. En plus, le Ziggy Stardust, enfin le Bowie Ziggy Stardust n'a jamais joué en France et tout, donc c'était pas voilà, c'était la fois cette conférence de presse, c'est parce qu'en fait il revenait d'un voyage et il allait prendre le ferry, donc voilà.
Non, je crois que Pierre, tu...
Non, mais en plus, Jacques Brel, il est mort en 78, mais c'est quand même un chanteur des années 50-60. Enfin, c'est quand même une autre époque. Deux mondes complètement séparés. Il y avait on écoutait les Beatles outre-Manche, et nous, on était encore sur Jacques Brel.
Bien sûr.
Et c'est un autre monde, quoi.
Ce qui est vraiment intéressant par rapport à Bowie, c'est qu'il a adoré l'univers des comédies musicales, et on parle bien sûr de la fin de Bowie avec Black Star, ce qui est tout à fait normal, mais il ne faut pas oublier que dans cette année 2015, il a mené à bien, malgré la maladie et malgré le fait qu'il se sache condamné, on va dire, dans le dernier trimestre de 2015, où ça paraissait quand même très compliqué de s'en sortir. Mais enfin, dès qu'il a enregistré Black Star, bien sûr, au printemps 2015, et puis il a surtout mené à bien son projet Lazarus, qui était une comédie musicale. Il a passé sa vie à nous parler, moi, journaliste, Eric Daron et moi, qui sommes les deux journalistes français à qui il a le plus parlé, il nous disait tout le temps, ma comédie musicale, elle est en train, etc. Et nous, après, c'est devenu un running gag, et la comédie musicale, alors mais vous allez voir, ça va être un truc sur internet, vous allez voir, ça va être à moitié un film, à moitié, et finalement il a mené ce projet à bien, quoi. Alors moi, j'ai pas échangé avec lui pendant ce dernier trimestre, ce serait mentir, mais j'ai échangé avec lui fin 2014, et il m'a dit dans un email, tu vas voir, je vais faire un truc que j'avais toujours dit que je ferais, et ça c'était, enfin voilà, la comédie musicale est un univers qui l'intéressait, et d'avoir découvert Brel via ce biais-là, je trouve ça touchant.
Et est-ce qu'il a, alors lui aussi, Bowie, est-ce qu'il comprenait l'époque vers la fin de sa vie, l'époque musicale dans laquelle il évoluait vers la fin de sa vie?
Le fait d'avoir fait ce qu'il a...
Contrairement à un Brel, justement, qui comprenait peut-être pas, justement...
Bowie était curieux de chez curieux. Enfin, je l'ai souvent raconté, mais la première chose qu'il me demandait dès qu'il me voyait, c'était des nouvelles de R. Il adorait R, Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel, et il demandait tout le temps des nouvelles de R. Il aimait bien le rap, il aimait bien. Je crois qu'ils sont, enfin, ils ont écouté beaucoup de rap de hip-hop pendant qu'ils enregistraient Black Star. Et puis surtout, ce qu'il y a avec Black Star, c'est qu'il a appris des gabins par rapport à lui, des mecs qui jouent dans un club de jazz, à qui Tony Visconti est allé dire. Ça vous dirait d'enregistrer un disque avec David Bowie? Les mecs se disent, mais nous, on joue, il y a 12 personnes en général quand on joue. Oui, mais il est venu l'autre jour, il vous a entendu et il aimerait bien que vous jouiez sur son disque avec lui.
Max, il est 13h48.
Rapidement, on rappelle comment on donne, et on rappelle surtout si vous nous rejoignez, on a passé les 21 000 euros dans l'émission, on veut passer les 22 000 euros.
Voilà. 22,
comment Didier. Bien sûr.
Radio.restoducœur.org, Radio Player ou sur l'application Radio Resto. Vas-y, je te rends la main.
Didier, qu'est-ce qu'on écoute? Un truc. Alors, on s'est un peu plombé là avec deux chansons.
écoute. Un petit Beatles, même si c'est pas la chanson la plus joyeuse, mais A Day in a Life, ça nous permettra peut-être de parler de.
On va se gêner.
Hein? I saw the photo.
army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read
écoutez bien, c'est la deuxième montée chromatique de cette chanson. Je vais vous faire un résumé très court et après tout le monde va pouvoir m'expliquer. C'est deux chansons qui sont collées les unes aux autres. Une première chanson écrite par John Lennon qui ouvre et qui raconte ce qu'il a lu dans le journal. Ensuite, entre les deux, il y a cette fameuse montée chromatique où il y a un orchestre et Jérôme va tout nous expliquer. Et ensuite, une deuxième chanson où Paul McCartney raconte un souvenir d'enfance. Grosso modo, c'est ça, Jérôme.
Oui, c'est-à-dire que c'est le moment où les Beatles n'écrivent plus vraiment ensemble, mais ils écrivent chacun dans leur coin, et pour travailler, et pour, mais, ce, enfin, pour que ce soit les Beatles, et ils accolent des bouts de chansons. Ils vont faire la même chose dans I've Got a Feeling sur ce qui sera Let It Be. Donc il y a vraiment le morceau de John. C'est même pas un article de journal, en fait. Il a les yeux qui traînent sur un journal dans le studio. C'est un peu comme l'écriture dont on parlait tout à l'heure. Et il y a des mots qui lui plaisent, Albert Hall, etc. Et il écrit un texte dans un état un peu tertiaire et qui donne ça, un jour dans la vie. C'est pour ça que ça s'appelle un jour dans la vie, d'ailleurs.
Tu conseilles la série sur les Beatles, là?
Oh, c'est merveilleux. Ouais, Get Back, c'est merveilleux.
Voilà, on a travaillé ensemble, dessus. On a interviewé Peter Jackson pour qui nous a raconté.
Oui, parce que c'est un de ces groupes mythiques des années 60-70, c'est du cinéma vérité, quoi. On les voit travailler ensemble pendant 8 heures, c'est quand même très fort.
Ouais, et d'ailleurs, c'est étonnant parce que justement, cet album-là, Sgt. Pepper, ou les grands albums des Beatles qu'ils ont fait notamment à Abbey Road, ils ne travaillent pas du tout comme ce qu'on voit dans la série Disney, parce que là, on les voit travailler comme un vrai groupe, ils sont tous ensemble, ils font des trucs et tout ça.
Oui, c'est un retour aux sources en fait, sur Get Back.
Plutôt en studio, ils travaillaient différemment, ils travaillaient dans plein de pièces différentes, etc. Mm-hmm. Qui m'explique la montée chromatique?
C'est une idée
pour nous tous.
Ah, c'était une question.
C'est une question collégienne.
Non, c'est une idée de McCartney. En fait, c'est d'aller de la note la plus basse à la note la plus aiguë. Et en fait, il a fallu faire un compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vite fait. Les musiciens classiques, c'est très très dur de leur dire d'improviser. Si on leur dit d'improviser, ils savent pas. Vous allez faire suer. En tous les cas, ceux-là, ça les faisait suer. Et alors, George Martin leur a dit, ce que McCartney voudrait entendre, c'est que vous alliez de la note la plus basse à la note la plus aiguë. Donc, chacun sur leur instrument, pendant 40 secondes. secondes sont allées de la note la plus basse à la plus aiguë pour faire cette fameuse montée qui paraît assez incroyable. Et en fait, il y a Mal Evans, qui était le roadie des Beatles, le copain de Liverpool, qui lui compte, parce qu'il fallait que quelqu'un compte, et puis voilà. Et Paul, il dirige. C'est assez hallucinant. Il y a quelques photos de ça, où on voit McCartney en train de diriger comme ça les mecs, là. Et puis eux qui vont, bah, alors, voilà, le violoncelle, l'alto, tout le monde va de là. Voilà. Et c'est des techniques d'enregistrement. Et puis attention, on est en quatre pistes, là. C'est-à-dire que ce qu'on entend, la prod, là, telle qu'on l'entend, enfin, c'est une alu totale de faire ça aujourd'hui. Les musiciens autour de la table savent ce que c'est que les pistes. Réussir à en foutre autant sur quatre pistes, c'est surréaliste.
Fred.
Ah, c'est à moi?
Bah,
j'étais passionné par ce qu'il
y a. Oui, mais tu peux, pendant des heures.
Les Pet Shop Boys.
Merci. Et c'est vrai que, mine de rien, on approche déjà de la fin de l'émission. Ouais, juste un petit point quand même sur on en est où
On n'a pas encore fait les 22 000 euros, mais il faut donner. Là, il faut donner. On est sur le dernier rush.
C'est les dernières minutes. Non, je voulais juste, parce qu'évidemment, saluer tous les bénévoles qui bossent pour les Restos du Cœur. Ils sont nombreux. Dans toute la France depuis des années. Tout à l'heure, tu m'apprenais, Kemmler, justement, que ta maman, depuis une quinzaine d'années, est bénévole. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons normalement.
On l'appelle.
Ah, on l'appelle?
On l'appelle, là, on l'appelle en direct.
Elle est à Marseille, donc.
Elle est à Marseille, ouais, en pleine collecte.
Ça, c'est la classe.
Tu vas pas lui faire le coup de la valise RTL?
Le montant de la valise.
J'y ai pensé.
Allô?
Allô?
Tu confirmes, c'est bien maman?
Ouais, c'est ma maman.
Ah, bah voilà.
Ah, c'est trop beau.
Comment ça va, madame?
Bonjour à tous.
Bonjour, alors, madame.
C'est incroyable parce que moi, je ne savais pas, quand j'ai invité Kemmler dans cette émission spéciale pour les restos, que vous bossiez, vous, au resto depuis une quinzaine d'années, de manière bénévole.
Depuis 2007.
Depuis 2007.
Énorme.
Ouais, je fais ma 16e campagne.
Et qu'est-ce que concrètement vous êtes en train de faire en ce moment?
Qu'est-ce que vous faites là en ce moment?
Alors, on fait une ramasse. Il y a un magasin qui nous a offert gentiment de faire une ramasse dans leur magasin, et c'est ce qu'on fait.
Mais ça veut dire quoi, une ramasse?
C'est ramasser des...
Une ramasse, eh ben, c'est une sorte de collecte, en fait. Les gens, on demande surtout des pâtes et des légumes, et les gens sont hyper, hyper gentils.
Bah là, on arrive précisément...
Dans les magasins, tu peux acheter des pâtes, dans certains magasins, quand il y a des collectes.
Voilà, le magasin... Bon, je dois pas dire de nom.
Bah, vous pouvez, ils nous aident.
Mais si, c'est bien.
C'est Auchan.
Okay.
Bah, voilà.
Et c'est où, il est où?
Auchan, dans le 8e.
Dans le 8e, à Marseille.
Et on arrive précisément à ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire les camions. C'est important d'avoir les camions.
C'est ce que j'allais dire à madame.
Sans les camions, on peut rien faire, hein.
Bah voilà,
est-ce
que vous pourriez pas faire un appel solennel qui pourrait être l'appel de Marseille?
Ouais. L'appel marseillais.
Voilà,
l'appel marseillais.
On franchisse le cap des 22 000.
Sachez qu'on a vraiment, vraiment besoin des camions, que sans les camions, les centres des restos ne peuvent rien faire. Parce que les camions partent du dépôt et viennent chez nous. S'il y a peu de camions, les tours sont plus difficiles. Ça prend beaucoup plus de temps. Il nous faut des camions.
Voilà.
C'est évident.
La messe est dite.
Et juste, on va finir quand même là-dessus. Vous êtes très fier du fiston.
Ah, mais bien sûr.
Ah, voilà.
T'es fier de moi quand j'avais des 10 à l'école. Alors.
Ah, bien sûr. Bon, merci d'avoir été avec nous. Pardon.
En plus, c'est pas parce qu'il est là et qu'il est... C'est un hyper tendre.
On l'a vu, hein.
Un hyper talentueux surtout. Ça, on s'en rend compte aussi.
Alors,
merci mille fois d'avoir été avec
madame,
nous.
Bravo.
Je suis vraiment hyper fier de lui.
et nous, on est fiers de vous et de tous les bénévoles. Bravo.
Franchement, on donne, mais on reçoit tout autant.
Merci d'avoir témoigné, Max. Il nous reste une minute là, à toi, Duel.
Très rapidement, radio.restoducœur.org. La mère l'a dit, il faut donner un maximum, il faut atteindre les 22 000 euros. Oh, pardon, désolé. J'ai emporté.
Maman l'a dit.
Vous pouvez donner aussi sur l'appli Radio Resto et sur Radio Player. Voilà.
Merci à Max, merci à tous nos invités.
Surtout, c'était tellement cool. Merci Jérôme d'avoir été là. Merci Fred Musa.
Pierre.
Merci beaucoup. Pierre Guénard. Merci Kemmler. C'était tellement cool.
Merci Eric, Jean-Jean, Didier. Et un petit bisou à Marie. Moritz qui est là aussi.
Marie, mais viens dire
Marie
bonjour.
Qui bosse avec Difool.
Oui, salut.
Marie.
Bravo pour les ce dons. Que vous faites.
Les dons.
Ah bah les dons, bah il faut envoyer, c'est ce que tu disais. Hein.
Exactement.
T'as, t'as donné l'adresse.
C'est pas avec c'est le début, toi, Marie.
Mais oui, mais parce qu'elle vient de se réveiller.
J'étais dans mon lit. J'étais avec Fred déjà hier soir, ouais, donc tranquille là. Tranquille. Pas dans le même lit, hein, mais. Mais bravo pour tout ce que vous faites.
Eric, avant de laisser l'antenne au suivant, est-ce qu'on peut avoir un responsable du Studec pour savoir pourquoi il y a une loge?
Oui.
Éric Jean-Jean.
Une loge VIP.
Une loge.
Le...